Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Abouaf.
Bonjour à tous, Bernard Abouaf au micro. On se retrouve pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive, notre grand rendez-vous du vendredi après-midi, peut-être pour certains, pour moi par exemple, le meilleur de la semaine. Pour différentes raisons. D'abord parce qu'on parle de choses merveilleuses, ensuite parce que c'est toujours très beau, veille de Shabbat. Donc c'est peut-être mon émission préférée. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que tout de suite après notre réflexion avec les rabbanim et avec Mariacha, on a Oneg Shabbat, qui est une émission de musique juive qui vous est présentée par le chanteur Raphaël Usan, et c'est juste merveilleux, c'est le même délice, mais cette fois c'est pas dans la réflexion, c'est dans la musique. Et nous sommes en ligne avec Raveli Lemel. Bonsoir Rav Lemel, Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, on va voir. Rav Lemel, on va, comme chaque semaine, survoler avec vous la paracha de la semaine, la paracha qui est dans ce passage qu'on lit dans nos communautés et hebdomadaires. Et on arrive à Roukat. À Roukat, je ne sais pas qui a dit ça, peut-être vous allez me dire, Bernard, tout le monde a dit ça. Mais c'est le passage le plus incompréhensible. Je ne sais pas quel est le très très grand qui a dit. Je me demande, quand je dis très très grand, je me demande si ce n'est pas même carrément Moshe Rabbeinu qui a dit ça. Le truc que je ne comprends pas, c'est Roukat. C'est la vache rousse. Et au-delà de ça, après, alors, bon, tout un corpus. Et dans ce corpus de réflexion qui a alimenté des siècles et des siècles de réflexion de nos sages, de nos Chachamim, il y a l'idée de Chok. C'est-à-dire cette loi qu'on fait sans savoir pourquoi, déjà sans la comprendre, mais encore plus difficile à saisir, sans savoir pourquoi. Je respecte ma mère, j'ai une idée pourquoi. Je fais Shabbat, je peux à peu près comprendre, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir penser à Dieu, penser à sa famille. Il y a des lois que tu ne comprendras jamais, tu ne sauras même pas pourquoi tu les fais. Alors, Rav Lemel, c'est quoi un choc ?
Exact. Alors tout d'abord, en premier lieu, désolé de vous reprendre un tout petit peu, mais celui qui a parlé de la Paradouma, donc de cette fameuse vache rousse qui traite de toutes les lois de pureté et d'impureté, surtout à l'époque du Temple de Jérusalem, c'est le roi Salomon, puisque c'est à ce propos qu'il a dit « Amarti echakma virochokamimani », traduction, j'ai dit « je pensais être sage et je me suis rendu compte que cette sagesse était loin de moi » et nos maîtres nous disent que c'est lorsqu'il s'est confronté en effet à la loi de la vache rousse. Alors, il faudrait tout d'abord reprendre un petit peu les choses à la base. Tout d'abord, rappelons-nous qu'au moment de la révélation au Sinaï, le peuple d'Israël va dire « Naaseh venishma ».« Naaseh, nous ferons venishma » et littéralement, nous entendrons, en traduction, nous serons à l'écoute et nous comprendrons. Évidemment, ici, on a quelque chose de très intéressant puisque la plupart du temps, les personnes s'arrêtent sur cette notion du passage à l'acte, cette nécessité d'agir. Et au fond, pour beaucoup, eh bien, ils s'arrêtent à cela. Alors que n'oublions pas que le texte nous dit « venishma », c'est-à-dire que le peuple d'Israël s'engage aussi à chercher à comprendre. Et d'ailleurs, Maïmonide, eh bien, dans le Mishneh Torah, va à un moment, dans les lois de Meïla, à la fin, le dire que nous avons l'obligation de chercher à comprendre le sens des mitzvot. Et évidemment, lorsque nous n'arrivons pas à percevoir le sens profond des mitzvot, comme l'univers par exemple des offrandes, des korbanot, eh bien, que ces choses ne soient pas légères à nos yeux. Mais ce qui est sûr, c'est que nous devons chercher à comprendre. Et donc, on a ici l'univers du chok, c'est-à-dire de la loi qui paraît être incompréhensible, qui se confronte évidemment avec cela. Alors, on va tout d'abord essayer de réfléchir pourquoi il faut chercher à comprendre, et après on va essayer de réfléchir pourquoi au fond il y en a une que l'on ne peut pas comprendre. Comprendre, c'est vivre les choses autrement. Et je vais prendre un exemple dans la vie de tous les jours. Dans le monde, par exemple, de l'éducation, dans le monde des relations humaines. On va dire à un parent qu'il doit être vigilant sur le langage qu'il utilise vis-à-vis de ses enfants. Alors il y a celui qui va entendre cela, qui va dire « Ok, eh bien je vais être vigilant dans la manière de leur parler », puis il s'arrêtera à cela et c'est déjà extraordinaire. Et si vous commencez à expliquer tous les enjeux qui se jouent dans le rapport à la parole, un enfant à qui vous dites « tu es bête » ou « tu es un imbécile », eh bien, peut construire de lui une image tellement dévalorisée qu'il lui faudra des années pour la reconstruire. Alors évidemment, votre vigilance n'est plus la même parce que vous avez pris la mesure de ce qui se joue derrière. Et c'est en cela où, en effet, entre autres, évidemment, la Torah nous demande de chercher à comprendre, c'est-à-dire de chercher à savoir, au fond, qu'est-ce qui se joue derrière l'univers des mitzvot, des commandements, aussi bien dans un port que dans un port à l'autre, pour pouvoir les vivre et les faire avec plus d'intensité, plus de force, dimension plus vraie. J'ai envie de dire qu'il faudrait que les choses aient un peu plus d'épaisseur. Sinon, on tombe dans ce que j'appellerais une forme de rituel très rassurant, parce que justement, c'est un rituel, c'est une récurrence. On sait que dans le monde de la chassidoute réinterpelle les quatre dimensions. D'ailleurs, dans les enseignements du Rabbi de Lubavitch, on voit très bien qu'il y a des explications basées sur la chassidoute, aussi bien sur le pshat, c'est-à-dire sur la compréhension première, entre autres, son commentaire absolument exceptionnel sur Rashi et d'autres. Mais ce qui est sûr, donc, en tout cas, c'est que l'on doit chercher à comprendre. Or, nous voyons que dans la Torah, il y a plusieurs types de commandements. Il y a ce que l'on appelle l'univers du Mishpat. Le Mishpat, c'est ce que j'appellerais la loi civile, celle que toute société qui se respecte est censée construire pour qu'il y ait un minimum d'harmonie entre les habitants d'un pays, d'un lieu, d'une ville. Ces lois fondamentales qui sont absolument capitales, parce que si elles n'existent pas, eh bien, c'est toute la société, au fond, qui, à un moment, va être déstabilisée. Les lois relatives au vol, les lois relatives au rapport entre les individus et tout cela. Ça, c'est ce que l'on appelle les mishpatim, les lois sociales aussi, qui sont, vous savez, dans la Torah tellement importantes. Comment gérer la relation non seulement à l'autre, mais l'employeur vis-à-vis de l'employé, ses devoirs. Puisque vous savez que la Torah ne vous parle jamais de droit, mais vous parle de devoir dans une société qui parle des droits de l'homme. Il est intéressant de voir que pour la tradition juive, on parle avant tout des devoirs que l'on a vis-à-vis de l'autre. Évidemment, si chacun assumait ses devoirs vis-à-vis de l'autre, la société serait légèrement différente, mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc ça, c'est le mishpat. Et puis après, vous avez donc la mitzvah. La mitzvah, c'est ce que j'appellerais le commandement. Allez, on va utiliser le mot religieux, c'est-à-dire les lois du Shabbat, les lois de la prière, les lois des téphilines, qui, elles, en effet, ont une dimension qui nous connecte au divin, qui ont au-delà de ça une symbolique extrêmement forte et que l'on peut comprendre. Comme vous le disiez tout à l'heure, pour le Shabbat, pour la kashrout, toutes ces lois-là, eh bien, on en comprend le sens, en tout cas à notre niveau, mais on peut appréhender quelque chose qui, intellectuellement parlant, peut être intégré. Et puis après, la troisième catégorie, les choukim. Les choukim seront traduits en français de manière générale par les statuts, et c'est un petit peu ces lois à propos duquel d'ailleurs on peut se moquer, parce qu'on dit c'est quoi cette histoire, c'est du n'importe quoi. Par exemple, l'obligation de mettre l'interdiction du mélange dans un habit de lin et de laine. On va dire, mais qu'est-ce que ça change ? Et surtout, la loi par excellence qui est incompréhensible, celle de la vache rousse, ce processus que je ne décrirai pas ici, parce que, tout simplement, ça prendrait un peu plus de temps, mais qui était lié à l'univers de la purification dans le temple de Jérusalem, et sur lequel justement on nous dit que Moshe l'a transmis, mais le roi Salomon, l'être le plus sage parmi tous les humains, n'a pas réussi à comprendre le sens profond. Bien sûr, il y a à l'intérieur de cela des symboliques que l'on peut comprendre. Regardez d'ailleurs sur place Rashi qui nous explique pas mal de symboliques passionnantes. Alors, ce qui va aller un tout petit peu plus loin, et c'est ce qui est encore plus bouleversant, c'est que la Torah nous demande de comprendre, et là elle nous donne un enseignement que l'on ne peut comprendre au niveau de son essence même, mais surtout, le texte de la paracha commence en nous disant « Zot à Torah ». La Torah nous parle « Zot Rukata Torah », voici la loi de la Torah. « Zot Rukata Torah », voici la loi. Et nos maîtres nous disent « ça c'est la loi par excellence ». Et dans une phrase un peu lapidaire, ils nous disent « car celui qui est capable de respecter cette loi est considéré comme s'il avait accompli la totalité de la Torah ». Alors bien sûr, on se vient clair, ce n'est pas parce qu'on accomplit cela qu'on a accompli le reste, mais on est en train de nous donner ici la dimension radicalement différente de cette loi qui symbolise le principe même du rapport à la loi. Alors, si vous le voulez bien pour comprendre cela, eh bien, je vais faire un détour peut-être par un univers qui vous semblera un peu surprenant, l'univers de l'amour. Eh oui. Lorsque deux êtres s'aiment, lorsque un homme et une femme vivent une relation de couple, au fond, quelle est la plus belle déclaration d'amour que l'on pourrait faire à l'autre? Alors bien sûr, chacun va avoir son imaginaire, avec des fleurs, avec ce que vous voulez, bien sûr. J'ai envie de dire, c'est l'expression de l'amour. Il faut faire différence entre donner à l'autre le sentiment d'être profondément aimé et d'être dans des expressions amoureuses. Eh bien, peut-être qu'un des éléments qui, au fond, révèle à l'autre que l'on l'aime réellement, c'est lorsque l'autre est dans une demande acceptable, bien sûr, et qu'on ne lui demande jamais de justifier. Bien sûr, si l'autre nous demande de faire tout et n'importe quoi, on est en droit de demander à l'autre pourquoi, parce que là, ça nous engage à nous sur des choses qui parfois peuvent être toxiques. Mais je ne parle pas de cela, parce que ça, c'est peut-être plus l'univers de la perversion. Non. L'autre nous demande quelque chose, et je vais prendre un exemple qui va vous paraître un peu puéril, mais vous savez, parfois il faut reprendre des exemples du quotidien pour intégrer les choses. Votre conjoint vous demande d'aller acheter quelque chose, mais dans un magasin A. Et vous, vous savez qu'on peut acheter la même chose dans un magasin B qui est plus proche de chez vous. L'autre vous a dit, est-ce que tu peux aller acheter là-bas ? Dire à l'autre, avec plaisir. Et pourquoi je le fais ? Mais parce que c'est toi qui me le demande. C'est-à-dire, au fond, la raison première pourquoi je fais la chose, c'est parce que tout simplement, c'est toi qui me le demande. À travers cela, on révèle deux choses. Il y a à la fois la relation de confiance, car on ne peut pas s'imaginer que l'autre va nous demander quelque chose qui irait à l'encontre de nous-mêmes. Et en même temps, on lui révèle l'importance et la valeur qu'il a à nos yeux. Alors bien sûr, après, certains ouvriront la problématique de l'amour et certains vont sûrement rebondir sur l'utilisation du terme problématique, mais ça sera encore un autre débat, on ne va pas faire de la psychanalyse ici. Mais dans le monde des sentiments, des ressentis, tout ce qui va, évidemment. Mais au fond, lorsque quelqu'un vous demande quelque chose et vous dit « est-ce que tu pourrais cela ?» et qu'il commence à vouloir se justifier et que vous lui dites « pas la peine, je le fais avec plaisir. Pourquoi ? Mais parce que tu me l'as demandé. » Eh bien, vous lui montrez ô combien cette personne représente quelque chose pour vous, et je le redis à nouveau, cette relation de confiance et cette relation de proximité et surtout d'amour qui est là. Alors, c'est peut-être ça au fond ici, cet univers du rock. C'est-à-dire, ça serait au fond cette situation dans laquelle la Torah nous dit, eh bien voilà, sache une chose, que au moment où tu es prêt à accomplir quelque chose, alors que tu sais que tu n'arriveras pas à comprendre le sens profond de la demande, eh bien, tu es en train de faire une déclaration d'amour au divin, tu es en train de dire au fond, je t'aime et je te fais confiance, c'est la raison pour laquelle j'accepte d'accomplir cela. Je répète à nouveau, évidemment, il faudrait faire très attention parce que certaines personnes instrumentalisent le concept au profit d'eux-mêmes. Mais si tu m'aimes, alors tu devrais être capable de faire cela. Attention, on ne peut pas se trahir. Rappelons-nous de cette chanson de Goldman, « Si tu te trahissais, nous t'aurions définitivement perdu ». On ne peut pas se trahir, traduction, on ne peut pas trahir ses fondamentaux éthiques. Et ça, sur cela, la question ne se pose pas. L'instrumentalisation d'un concept pareil pour amener l'autre à faire ce que l'on désire, surtout dans le cadre d'une relation que l'on croit être amoureuse, mais qui la plupart du temps est une relation de possession, est quelque chose duquel il faut se méfier, mais ça c'est le domaine de l'évidence. Là on parle au fond avant tout de ce qui se joue dans la relation divine. Donc voilà un petit peu à quoi peut nous faire réfléchir ce rock. Et de manière très simple, eh bien, on peut traduire ce concept dans notre quotidien, c'est-à-dire montrer comment dans la relation à l'autre, dans la relation à notre conjoint, dans la relation à nos enfants, dans la relation à nos proches, eh bien, nous ne leur demanderons pas systématiquement de se justifier, de donner une explication de texte, parce que si ce n'est pas compréhensible pour nous, alors il est hors de question de le faire, pas du tout. Je n'ai pas besoin que la chose soit totalement intelligible pour l'accepter, parce que je te fais confiance et je t'aime. Voilà un petit peu quelques éléments extrêmement concrets sur lesquels non seulement on peut et on se doit de réfléchir, en tout cas c'est ce que la Torah nous propose, et à partir de cela de le traduire dans le monde du réel, dans notre réalité quotidienne aux uns et aux autres. Évidemment, à travers cette proposition de commentaires, je sais très bien qu'il y en a d'autres extrêmement beaucoup, bien plus profondes, qui se basent sur la mystique, sur la chassidoute et d'autres choses, mais eh bien, on va dire que c'est ici une des lectures que l'on peut faire de l'enseignement que la Torah nous donne à travers ce texte de la Parasha.
Rav Eli Lemel, merci pour cette très très belle explication. En vous entendant parler d'amour, je me disais ça ressemble à la vache rousse parce que c'est pareil, on sent que c'est quelque chose de fort, mais vous savez, vous, c'est quoi l'amour ? Moi, je sais pas. C'est quoi l'amour ? Je sens quelque chose. Donc, pareil pour la vache rousse. Ouais. Vous savez, c'est quoi une vache rousse ? Non, je sais pas. Peut-être même aussi pour la beauté, on pourrait dire ça. Rav Eli Lemel, je vous remercie. Bonsoir à vous et Shabbat Shalom.
Merci beaucoup et Shabbat Shalom.
Et nous sommes en lien avec Mordechai Bitton, Rav Mordechai qui est à Jérusalem. Bonsoir Rav Mordechai, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom ou Mevorach.
Shabbat Shalom, Shabbat Shalom ou Mevorach. On continue notre réflexion sur Parashat Roukat. Évidemment, Moïse se trompe. Puis d'ailleurs, c'est vraiment, je crois que c'est probablement l'un des passages de la Torah où il y a eu le plus de livres, parce que même lui, il en veut, après longtemps, sur cette histoire qu'on l'a forcé à taper sur le rocher. Et vraiment, Mémé Riva, c'est resté un truc énorme. Alors qu'à la base, on l'a dit, c'est pas énorme. À taper au lieu de parler, si moi je fais ça, les gens ne le remarquent même pas. Mais vous dites, vous, Rav Mordechai Bitton, que l'enseignement de ce passage-là de la Torah est un enjeu majeur, non seulement pour les Juifs à travers la génération, mais surtout pour nous aujourd'hui. Alors pourquoi ?
C'est extraordinaire. D'abord, il faut rapporter, pour expliquer ça, il faut expliquer un principe qu'on a expliqué plusieurs fois dans cette émission, mais qui est une pierre angulaire de la pensée juive. Maaseh Avot Sivan Lamanim. La Torah nous raconte des histoires concernant les pères fondateurs du peuple juif, Avraham, Yitzhak, Yaakov, en l'occurrence ici Moïse, Moshe, notre maître, Moshe Rabbeinu. Ces histoires s'appellent Maaseh Avot Sivan Lamanim. Les histoires qui ont concerné les pères fondateurs du peuple juif sont des signes pour leurs descendants. Ça, c'est la traduction dans les mots. Ce que ça signifie, c'est la chose suivante. C'est qu'en fait, la Torah nous raconte des matrices. Ce sont des matrices historiques et spirituelles qui vont se dupliquer, se répéter tout au long de l'histoire, simplement les noms, les lieux changeant. Mais l'enjeu est tout le temps le même. Qu'est-ce qu'on vient nous raconter ici ? On vient nous raconter l'histoire d'un groupe d'hommes et de femmes et d'enfants. Ils sont plusieurs millions qui sont sortis d'Égypte. Mais cet épisode intervient 38 ans après la sortie d'Égypte. Donc on est au moment où Aaron décède, et donc les nuées de gloire qui préservaient Israël se sont évaporées. Myriam vient à décéder, son puits se tarit, et là les Bnei Israël sont sans eau. Et donc, en quelque sorte, les Bnei Israël sont à la fin de 38 ans d'exil dans le désert. Ils vont devoir maintenant rentrer en Eretz Israël. Et ils vont quitter en quelque sorte le mode de vie miraculeux dans lequel ils vivaient et rentrer maintenant dans un mode de vie beaucoup plus terre à terre, où il va falloir, comme on dit, sanctifier le quotidien. C'est-à-dire, il va falloir maintenant quitter le territoire du miracle pour rentrer dans le territoire de la vie courante, mais dans la vie courante, être capable de faire des mitzvot et de montrer la présence divine dans le monde, dans le travail, dans ce qu'on réalise. Ça, c'est le contexte dans lequel ça intervient. Or, Maaseh Avot Sivan Lamanim, il y a ici une matrice. C'est quoi la matrice ? Les 38 ans sont donc les 38 ans qui viennent à la fin de l'exil, de la partie de l'exil dans le désert. C'est une manière de nous dire qu'à la fin des temps, lorsque l'exil va se terminer, nous allons devoir affronter une épreuve qui ressemble à l'épreuve du rocher. Quelle est l'épreuve du rocher ? L'épreuve du rocher, c'est qu'en fait, pour se dire les choses, on va dire de manière simplifiée, l'épreuve est la suivante. C'est que Dieu va dire à Moshe, apprends aux Bnei Israël, qui rentrent en Eretz Israël, qui vont devoir travailler, apprends-leur que l'étude de la Torah est puissante et peut leur permettre de se réaliser et de réaliser des choses formidables. Tu vas dire des divrets Torah devant le rocher, et les divrets Torah, les paroles de Torah que tu vas dire, vont provoquer la sortie de l'eau. Autrement dit, l'idée était de montrer que la Torah règne sur la nature, que l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot, fait que la nature se plie en quelque sorte à l'irruption de cette spiritualité dans le monde. Le juif qui fait les mitzvot, le juif qui fait Shabbat, le juif qui observe la Torah, qui étudie la Torah, va en quelque sorte conduire à une... va en quelque sorte avoir une vie différente et un rapport différent à ce qui l'entoure. La nature va se comporter différemment. Et là, les commentateurs disent qu'en fait, la génération n'était pas apte à recevoir ce miracle. Et donc Moshe, comme vous l'avez dit dans l'introduction, lui-même sent qu'il ne peut pas en quelque sorte faire ce miracle. Et donc la confusion va s'installer. Cette confusion, c'est la particularité de la génération de la fin de l'exil. Dans la Gemara, dans Sota, on nous dit que la fin de l'exil va être marquée par la confusion généralisée. Confusion généralisée dans les familles, dans les mœurs, dans les sociétés, le rejet du divin, du spirituel sera bonnet courant, le mépris vis-à-vis des sages, vis-à-vis de la Torah, la haine à l'intérieur des familles, le désordre au niveau économique, La cherté deviendra chère, nous dit la Gemara dans Sota. On vit ça aujourd'hui en Israël, où on a eu, et en France, vous le voyez bien aussi aujourd'hui, d'accord, avec des hausses de 30, 40, 50% de tous ces trucs qui ne veulent rien dire, quoi. C'est des choses aujourd'hui qui sont complètement folles. D'accord, donc la confusion va s'installer. Mais c'est surtout une confusion intellectuelle, une confusion idéologique, spirituelle, une confusion dans la pensée qui va s'installer. Et alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette période? Dans cette période, il va falloir persuader les gens que la Torah n'est rien, que la Torah n'est pas une solution. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, regardez ce que va dire ici un auteur récent qui commente un passage du Zohar. Ce passage-là, d'accord, va dire la chose suivante, qu'en vérité, l'eau représente la Torah et que cette eau qui n'arrive pas à couler représente la pauvreté de la Torah à un moment donné. Et il va expliquer la chose suivante. Il va dire que toute la séduction que les forces de la confusion veulent exercer sur les gens, c'est de montrer que les divrei Torah, les paroles de Torah sont pauvres, qu'elles n'ont pas de source, elles n'ont pas de quoi se nourrir et nourrir ceux qui les écoutent, que leur valeur est faible. Et que finalement, les Talmidei Chachamim, les sages, ceux qui les incarnent, ne sont rien, et qu'eux-mêmes sont dans la confusion. Et qu'en fait, la Torah ne constitue en aucune manière une réponse à la confusion ambiante. Donc on voit ce qui se passe en fait au travers de cette épreuve, qui intervient à la fin de l'exil dans le désert, de la même manière que cette période de la confusion intervient dans notre période, qui est une période de fin d'exil, d'après l'ensemble de nos sages. Eh bien, pour que, en quelque sorte, on ne puisse pas comprendre ce que l'on vit, pour qu'on ne soit pas capable d'avoir une vue juste du monde qui nous entoure, on va s'efforcer d'expliquer aux gens que la Torah n'a pas de réponse, que la Torah c'est nul, que la Torah c'est zéro, que la Torah n'est rien. Et donc il y a ici une correspondance qui est une correspondance parfaite. Et c'est la raison pour laquelle cette épreuve du rocher, nous dit le Zohar, nous dit la mystique juive, c'est une épreuve qui nous montre qu'à un moment va s'installer dans l'histoire du peuple juif, va s'installer finalement une difficulté d'accès à la Torah. Alors c'est paradoxal parce qu'aujourd'hui on a des sites comme Dirshu, on a des Gemarot de Sotenstein Bleu qui nous expliquent tout, on a des cours, on a des sites, on a les radios, on a l'émission Kabbalat Shabbat sur Radio Shalom. Donc la Torah n'a jamais été aussi accessible, c'est vrai, mais regardez ce qui se passe en face. Regardez ce qui se passe en face. Ce sont des milliards qui sont investis par les grandes puissances de la communication pour guider les gens vers la confusion des genres, la destruction des identités sexuelles, la normalisation de la confusion des genres et de la destruction des identités sexuelles, le fait que finalement les gens qui vivent avec des valeurs de la Torah sont des ringards, des fous, des pouilleux et des malades, le fait finalement que la Torah, c'est finalement un texte qui concerne des gens qui vivent dans leur ghetto. Donc il y a des milliards qui sont investis. On voit très très bien que les gens sont finalement, ceux qui ne sont finalement pas, qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas eu cette éducation, ben, ils sont dans une situation de libre arbitre en quelque sorte. Ils ont d'un côté une civilisation qui marche et qui leur propose la confusion, et de l'autre côté, une civilisation qui marche aussi, mais et qui doit se faire entendre, et qui là leur propose la clarté, leur propose de mieux réfléchir sur tout, sur les identités sexuelles, sur le rôle du parent, des enfants, sur la famille, sur le sens de la vie, sur la émouna, sur la foi, sur Dieu, sur le monde. Et donc il y a ici quelque chose qui est complètement, on va dire, équivalent. Autre chose, on a appris ces eaux Mei Meriva, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont les eaux de la querelle. Quelle est la querelle dont on parle ici? C'est Moshe Rabbeinu qui se querelle en quelque sorte avec le peuple. Le peuple se querelle avec Moshe Rabbeinu se querelle avec le peuple. Mais cette querelle aussi, c'est une figure emblématique. C'est une figure, finalement, de la confusion, de l'affrontement entre le Talmid Chacham, celui qui étudie et qui, finalement, véhicule des idées claires, anciennes et jeunes, anciennes et actuelles, anciennes et éternelles, et en même temps, l'atmosphère de confusion. Le Talmid Chacham, son travail, le sage, celui qui étudie, c'est d'introduire la clarté dans la confusion. Et donc, il y a une querelle. Une querelle, ça veut dire qu'il y a un combat à force égale entre la clarté et la confusion. Pourquoi ? Parce que effectivement, il faut que les gens aient le libre arbitre. Il faut effectivement que ceux qui vont se délivrer de cet exil du Dad, de cet exil intellectuel, idéologique, il faut qu'ils aient le choix et il faut qu'en quelque sorte, il faut qu'ils puissent s'en arracher. Alors, quelle est la manière de s'en arracher ? Regardez ce qui est marqué dans la Mida, on va conclure sur ça. Dans les bénédictions que nous récitons dans la Amida, nous avons trois premières bénédictions de louange à Dieu, puis ensuite nous avons des demandes personnelles. Nous demandons du da'at, du discernement, ce qui est très utile pour éviter de se laisser abrutir. Nous demandons la tshuva, parce que c'est quelque chose aussi de très utile, parce que c'est une manière intelligente d'utiliser son intelligence. Ensuite, nous demandons la délivrance, nous demandons le pardon, d'être nettoyé de nos fautes, et ensuite nous demandons la geoula. Et cette délivrance que nous demandons, c'est une délivrance personnelle et collective. Et en fait, le sens de la présence de cette bénédiction à ce moment-là de l'Amida, c'est de nous dire, voilà, de dire, on demande à Hachem de sortir du cycle faute, repentir, d'être capable finalement d'avoir une vie plus rectiligne et donc de se libérer de l'atmosphère de confusion. On demande en fait en permanence à Hachem, à Dieu, de nous aider à nous défaire de la confusion. C'est le sens de la présence de cette bénédiction à cet endroit-là de l'Amida que nous récitons pieds joints silencieux devant Hachem, dans laquelle nous disons « Fais-nous sortir du cycle de la confusion et de la rédemption, rentre-nous maintenant dans autre chose, mets-nous dans le cycle de la clarté, qu'on avance en étant toujours de plus en plus clair dans notre vision du monde. » Voilà à toutes et à tous, Shabbat, Shalom.
Alors évidemment, être dans la confusion, je pense que c'est très humain, donc tout le monde cherche. Oui. Je vais vous donner un exemple par contre qui m'a frappé. J'espère que je vais être compris de tout le monde, quelle que soit sa sensibilité. J'ai appris que pour parler de la fête des mères, de nombreux secteurs, des entreprises, de nombreux secteurs, disons comme ça, on ne dit plus fête des mères. On dit la fête des gens qu'on aime. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de mère. Je trouve ça tellement incroyable qu'on fasse croire aux gens qu'il y a des gens qui n'ont pas de mère. Tu ne peux pas être humain si tu n'as pas de mère. Alors évidemment, après, je ne suis pas là pour juger les orientations sexuelles des uns et des autres. Mais qu'une minorité de gens arrivent à essayer d'imposer à toute la société de croire qu'ils n'ont pas de mère le jour de la fête des mères, qu'il faut dire la fête des gens qu'on aime parce qu'il y en a qui n'en ont pas, je trouve ça incroyable. Je vous le dis franchement. Je sais, je ne veux même pas rentrer vraiment dans le...
On peut le dire quand même, on est ici dans le règne de la confusion, là où finalement, biologiquement, ça peut y avoir quelqu'un qui n'a pas germé dans une mère, bien sûr.
Les orientations qu'ils ont, mais que toute la société va s'arrêter. Comme sur certains livrets de famille, paraît-il, il y a marqué parent 1, parent 2. C'est devenu complètement fou. Je crois, hein. J'espère être bien compris, parce que je ne suis pas là du tout, moi je ne suis pas, mais vraiment pas un inquisiteur. Chacun fait ce qu'il veut, mais qu'on impose à toute la société de s'aligner sur ce standard.
Mon cher Bernard, chaque époque a ses clergés. Et le clergé inquisitorial aujourd'hui est le clergé du dégenrage, c'est le clergé de la confusion. Donc ce clergé-là, nous entendrez parler aujourd'hui, et irait nous clouer au pilori, lors même que la majorité dite silencieuse, mais qui est en fait quand même assez expressive, n'accepte pas du tout ce dégenrage, parce qu'il reste quand même beaucoup de bon sens chez les gens. Mais bon, comme vous l'avez dit, c'est une minorité agissante qui, là, s'empare de leviers judiciaires, sociaux, médiatiques, qui impose à une majorité de gens une chose dont elle ne veut pas. Oui, tout à fait.
Rav Mordechai Biton à Jérusalem, je vous remercie. Et Shabbat Shalom. Shabbat Très simplement. Shalom. Shabbat Shalom. Un bon Shabbat. Bonsoir.
Bon Shabbat. Bonsoir.